Quelque part au Moyen-Orient, perdu dans les entrailles des terres et des sables, oublié de la plupart des hommes, dorment 3000 ans d'histoire. Bienvenue aux Antiquités Orientales, l'émission qui vous emmène sur les traces des grandes civilisations du Moyen-Orient, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Aujourd'hui, le vaisseau des Antiquités orientales reste au même endroit de la carte que dans l'épisode précédent. Étonnant, me direz-vous si je ne vous disais pas que nous visiterions une autre époque. Dans les terres fertiles du sud de l'Irak, a fleuri une cité légendaire dont le nom a rayonné à travers les siècles, jusqu'à notre époque. Aujourd'hui donc, notre navire voguera à travers l'histoire dans la Grande Babylone, porte des dieux, cité du savoir dans laquelle s'épanouir la culture des Babyloniens. Dans cet épisode, je vous ferai déambuler dans cette ville plusieurs fois millénaire à travers quelques scènes du quotidien qui ont pu se dérouler en Babylonie. Ces scènes sont entièrement construites sur ce que la recherche historique connaît de la civilisation babylonienne. Mais il me faut indiquer que leur mise en scène est tout à fait issue de mon imagination et ne respecte pas forcément de contraintes liées à une époque particulière de l'histoire babylonienne, l'objectif de cet épisode étant de brosser un portrait général, distrayant et agréable à suivre des Babyloniens. Bref, cap sur la ville de Babylone et de ses sciences intarissables. Dans le dernier épisode des Antiquités orientales sur les Sumériens, un super épisode. J'ai évoqué la civilisation mésopotamienne, une civilisation qui a vécu durant près de 3000 ans, dans la région qu'on appelle la Mésopotamie et qui traverse l'Irak, ainsi qu'une partie de la Syrie actuelle, entre l'invention de l'écriture en 3300 avant Jésus-Christ et 539 avant Jésus-Christ. Pour faire simple, ce sont les Sumériens qui ont posé les bases de cette civilisation, et dès que les Sumériens ont perdu leur indépendance politique vers 2000 avant Jésus-Christ, ils ont, entre autres, je simplifie grandement, donné naissance à deux nouvelles cultures qui sont cousines. Et c'est là qu'entrent en scène les Babyloniens, puisqu'ils sont une de ces cultures. Ils évoluèrent dans une région précise de la Mésopotamie que l'on appelle roulement de tambour la Babylonie, et qui correspond globalement à la moitié sud de l'Irak actuel, d'environ 2000 avant Jésus-Christ à 539 avant Jésus-Christ toujours, la date à laquelle la Grande Babylone tomba aux mains des Perses. Entre ces deux dates, soit tout de même une période de près de 1500 ans, l'empire des Babyloniens a subi beaucoup de transformations, que ce soit au niveau culturel, religieux, politique ou territorial, et leurs sciences n'y firent pas exception. De ce fait, pour préserver votre cerveau et le mien de la complexité de ces changements, je n'exposerai dans cet épisode que des généralités sur les sciences des Babyloniens, sans pour autant chercher à replacer toujours sur la frise chronologique toutes les évolutions précises des différentes disciplines dont on va parler. Et il faut maintenant s'attaquer au cœur du sujet de cet épisode. Rationaliste. Je crois que c'est le mot le plus adapté que j'ai trouvé pour définir le rapport qu'entretient la culture occidentale avec le monde. Entre un taux d'athéisme qui crève de plus en plus le plafond et une course effrénée au progrès technologique, la science, telle que nous la concevons, est au centre de notre culture. Et je n'invente pas l'eau chaude en vous disant qu'elle a investi nos villes, nos maisons, pour s'inviter jusque dans nos poches. Si un savant babylonien débarquait à notre époque, il tomberait probablement en syncope. Pas tant devant la taille de nos bâtiments ou l'avancée de notre technologie, mais plutôt devant l'absence totale de la religion dans notre pratique de la science. Dans l'esprit d'un babylonien, et je crois que l'on peut généraliser ceci à tout habitant du Proche-Orient antique, le monde entier est régi par les dieux. Tous cantonnés à un domaine spécialisé, le soleil, la lune, les fleuves, les montagnes, etc., les dieux en définissent les lois selon leur volonté. Si le dieu soleil se lève le matin pour faire sa course habituelle dans le ciel, avant de disparaître au-delà des montagnes le soir, c'est bien parce qu'il l'a décidé. Lorsqu'il ne le fait pas, c'est aussi parce qu'il l'a décidé, et en général, ça sent pas bon. Ce que je veux souligner ici, c'est que là où nous voyons dans la course du soleil l'avancée naturelle d'un monde qui répond à des lois physiques et mathématiques, le savant babylonien, partout où il pose son regard, voit aussi l'œuvre des dieux. Et pourtant, nous allons voir que dans toutes les disciplines, la science du savant babylonien répond plus ou moins à la définition que nous avons aujourd'hui d'une science, à savoir, je cite,
« l'ensemble de connaissances, de travaux, d'une valeur universelle, ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables, selon des méthodes déterminées, comme l'observation, l'expérience ou les hypothèses et la déduction. »
Définition du petit Robert. En gros, la science, c'est faire des expériences, des observations, pour en déduire des lois, des principes universels. Et donc justement, cette religiosité dans l'approche du réel n'a pas empêché les anciens de l'observer, de tenter d'en résoudre les mystères et d'en agrandir leurs connaissances. Au contraire, elle les a même poussés à développer leur propre rationalité que je vais tenter de vous exposer dans cet épisode.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM à la découverte de l'histoire.
De toutes les sciences qui ont occupé les Babyloniens, les mathématiques en sont peut-être la plus connue. Comme je l'évoquais dans le dernier épisode,
allez l'écouter.
La toute première documentation écrite de l'humanité, inventée par les Sumériens il y a 5000 ans, émerge dans un contexte où l'importance de gérer des stocks de ressources devient vitale pour les premiers états du Proche-Orient. Autrement dit, ça fait quand même un petit moment que l'humanité a besoin de compter. Les mathématiques ont donc été inventées par les Sumériens, d'abord pour de la comptabilité, on l'a dit, mais en les perfectionnant, ils les ont étendues à d'autres domaines, avant de les transmettre aux Babyloniens. C'est donc aux Sumériens que les Babyloniens doivent leur connaissance des mathématiques, et notamment leur système de comptage que je vais maintenant vous expliquer. Lorsque nous comptons aujourd'hui, nous le faisons en base 10, c'est-à-dire que nous donnons une place plus importante aux multiples de 10, comme 100, 1000, 10 000, etc. Les Babyloniens, eux, comptaient en base 60, donc leur repère dans leur comptage était les multiples de 60, oui. Mais en théorie, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce système, puisque vous le connaissez déjà. C'est comme ça que l'on compte le temps. 60 secondes, ça fait une minute, 60 minutes égale une heure, etc. Et à qui doit-on ce système de comptage du temps ? Aux Babyloniens. Mais au-delà du comptage du temps, dès 1900 avant Jésus-Christ et pendant 400 ans environ, nous voyons que les Babyloniens basent toutes leurs réflexions mathématiques sur de la géométrie, soit l'étude des figures dans l'espace, sous forme de problèmes qu'ils cherchent à résoudre avec des calculs d'algèbre. L'algèbre, c'est ce qui permet de résoudre des équations abstraites. Grossièrement, c'est le fameux calcul du style 2x plus 3 égale 5, avec la question qui a hanté nos années de 3e, trouver la valeur de x. C'est 1, si jamais. Ils font des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, maîtrisent les carrés de nombres et les racines carrées, calculent des surfaces, bref, sur ces 400 ans, les mathématiques babyloniennes prennent un essor considérable. Nous savons qu'elles étaient enseignées dans des cursus spécifiques, du moins à une certaine élite sociale qui était aussi destinée à devenir une élite intellectuelle. Fun fact, le théorème de Pythagore qu'on utilise pour connaître la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, c'est un problème qu'il a piqué aux Babyloniens. Mais le plus étrange à première vue, c'est que ces mathématiques n'étaient pas conçues directement pour régler les problèmes du quotidien. Certes, nous avons des textes qui calculent l'aire d'un champ, d'une fortification ou qui résolvent des problèmes de comptabilité, mais ces problèmes ne sont pas issus de la vie quotidienne, ils ne sont là que pour aboutir à un exercice de calcul. En fait, ces mathématiques sont comme les mathématiques que nous faisons à l'école.
Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes. Si je fais une interruption de remplissage de ma baignoire à 20h16, que je reprends à 20h19, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurai-je 29 litres d'eau dans ma baignoire ?
Personne ne va, a priori, avoir à calculer le contenu d'une ou le temps nécessaire pour faire Lyon-Amiens, sachant que l'on fait une pause toutes les 34 minutes et 57 secondes, et que la voiture a une vitesse moyenne de 98,4 km/h.
Bah oui, c'est facile. Tu prends le...
Et ils disent pourquoi il va à Saint-Etienne ?
Donc de là à Caen, il y a 300 bornes. Mmh. Et le mec, il s'arrête pendant une heure.
Ouais, il a dû s'acheter un sandwich triangle.
Tu comprends pas ?
Si, je comprends. Si, si. C'est que le gars, il roule, il part de là, et il a... Et on fait de la bio ?
Ces problèmes ne sont là que pour nous exercer au calcul, et les problèmes de mathématiques babyloniens que l'on a retrouvés en font de même. De plus, la découverte de tablettes de calcul atrocement compliquées mais tout aussi inutilisables dans des problèmes quotidiens montre que la maîtrise de cette discipline était aussi, voire surtout, un moyen pour les scribes de se donner du prestige auprès de leurs congénères ou dans les hautes sphères du pouvoir.
Dans la lumière, j'ai trouvé 79 Michel qui habitent dans la région. Si tu veux, ce soir, on peut tous les niquer. Non, 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 mais attends, je rigole, hein. Non, mais on sait même pas qui c'est, ce Michel !
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM à la découverte de l'histoire.
En vous baladant dans les rues de la capitale, entre les maisons à toits plats de couleur ocre, vous entendez un bruit qui se superpose au tumulte de la vie quotidienne. En vous rapprochant d'une maison, vous comprenez que ce sont des cris. Des cris de douleur qui émanent de l'intérieur. Visiblement, un homme est malade et il souffre le martyre. Derrière vous, vous entendez la voix d'un autre homme, bien valide lui, qui s'empresse de se frayer un chemin jusque dans la maison. On va donc se pencher sur ce que pourrait bien faire cet homme. Bon, déjà, il faut vous dire que cet homme est là pour soigner, cela va de soi, mais la question est de savoir comment. Et en effet, les Babyloniens ne disposaient pas que d'une seule médecine unique, mais de deux disciplines bien distinctes. D'un côté, il y a l'Asutu, et de l'autre, l'Ashiputu. En fait, l'Asutu, qu'on va appeler pour faire simple dans cet épisode la médecine physique, identifie des causes physiques de telle ou telle maladie et cherche à les soigner en suivant des recettes pour préparer de divers remèdes. L'Ashiputu, quant à elle, est une médecine religieuse qui interprète la maladie comme le résultat d'un problème de cet ordre en la soignant avec des rituels et des incantations. Ainsi, un patient qui souffre physiquement peut avoir été victime de sorcellerie, de la colère divine ou au contraire auteur, mais auteur d'un comportement immoral le rendant impur et jetant sur lui des démons pour le punir. Quand on essaye d'en savoir un peu plus sur la médecine physique babylonienne, on se rend compte qu'il existe des textes qui concernent spécifiquement cette médecine. Elle dispose de son spécialiste attitré, l'Asu, un professionnel du soin, fonctionnant un peu comme un auto-entrepreneur et qui était donc soumis à la compétition du marché. Le code de Hammurabi, une stèle qui rassemble les lois promulguées par le grand roi babylonien Hammurabi au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, nous indique qu'un Asu qui sauvait la vie d'un homme libre pouvait recevoir jusqu'à 10 cycles d'argent, 5 si c'était un enfant, 2 si c'était un esclave. Nous voyons donc que sa rémunération dépend de la classe sociale du patient, mais aussi de l'importance de son soin.
Oh Seigneur ! Grand prince. Oh, la classe. La révérence.
On apprend même qu'il disposait d'une lance de bronze, c'est le terme qu'utilisent les textes, qu'il pouvait, je cite, pratiquer une incision sur des patients, ce qui implique des connaissances en chirurgie. L'Asu était manifestement quelqu'un de lettré, puisque nous disposons de textes qui sont littéralement des recettes de soins pour guérir telle ou telle maladie. Les remèdes pour ces dernières sont d'ailleurs séparés en plusieurs catégories, selon les parties du corps qu'ils soignent. La tête, avec les yeux, le nez, les oreilles, les dents, etc. Le buste, avec les poumons, et les remèdes pour les problèmes de toux ou de reins, et on continue comme ça jusqu'aux pieds. En ce qui concerne ceux avec quoi l'Asu soignait, il faut indiquer que les Babyloniens vivaient dans un paysage plat, désertique, où les seules plaines fertiles sont regroupées aux abords des fleuves. C'est pourquoi, même si cette médecine utilisait plusieurs types d'ingrédients, la majorité d'entre eux étaient des condiments ou des épices qui, selon les remèdes, devaient être avalés, bu, injectés comme suppositoire, appliqués en pommade ou en onguent. Bref, les Babyloniens n'ont pas manqué d'utiliser les ressources à leur disposition en les transformant de manière à pouvoir profiter au mieux de leurs propriétés médicinales. Il ne manquait pas non plus d'avoir plusieurs remèdes pour la même maladie. Nous avons des textes qui nous disent clairement que la recette a été testée, ce qui implique que la médecine babylonienne possède la notion d'expérimentation propre à la définition de la science que l'on a donnée au début de l'épisode. Malheureusement, les cris du malade ne se sont pas tus, et l'Asu ressort de la maison, bredouille. Il semblerait que le problème du malade ne soit pas de son ressort, il faut donc s'y prendre autrement. En parallèle de cette médecine physique, existait donc la médecine religieuse. Elle aussi disposait de son propre spécialiste, dont le nom varie selon les époques et qui, à l'inverse de l'Asu, ne fonctionnait pas à son propre compte. Le Mashmashu, comme on pouvait l'appeler, était en réalité un prêtre qui œuvrait au sein d'un temple et dont l'activité n'était pas uniquement dédiée à la guérison des gens. Il pouvait s'occuper d'autres choses, par exemple de l'administration du culte aux dieux, ce qui implique qu'il était souvent issu de bonnes familles, disposait d'un statut social élevé et bénéficiait d'avantages reliés à son rôle au sein du temple. Comme on l'a dit, la médecine religieuse partait du principe que le patient était victime d'un problème d'ordre spirituel, comme une malédiction, par exemple. Dans ces cas-là, on pensait que les patients étaient possédés par des démons, envoyés par les dieux pour le punir. Il fallait donc invoquer les mêmes dieux qui étaient en colère contre le patient, pour les forcer à dire aux démons de quitter le corps du malade, et pour en arriver là, toute la tension du rituel était contenue dans le fait de convaincre les dieux d'agir pour le patient. Cela passait par des louanges, des offrandes de mets délicieux, des supplications, des incantations ou encore des gestes rituels qu'il fallait réciter et exécuter sans le moindre balbutiement ou hésitation, sous peine de voir le rituel échouer, voire même empirer l'état du patient, puisque les dieux seront encore plus en colère contre lui. Plus surprenant encore, il existe toute une littérature de présages qui permettait aux prêtres de deviner à l'avance comment l'état du patient allait évoluer. La logique derrière ces présages est que les dieux inscrivaient dans le monde des messages qui devaient être déchiffrés par les hommes. On va le voir un petit peu plus tard. et comme l'état du patient dépendait surtout de leur volonté, il était très important pour le prêtre qui le soignait d'être attentif à toute réaction des dieux pendant le rituel de soins ou après. Un de ces textes de présage nous dit « Si l'exorciste voit un cochon noir, le patient va mourir. S'il en voit un blanc, alors le patient vivra. S'il en voit un rouge, le patient mourra dans 3 mois. S'il voit un cochon tacheté, il mourra d'un œdème. Donc si vous êtes malade, pas de cochon autour de vous, sauf les blancs. » Une dernière question demeurait cependant pour les historiens à propos de la médecine babylonienne. Comment expliquer que ces deux disciplines si opposées puissent survivre au sein de la même société ? Eh bien, les chercheurs ont tenté d'y répondre. D'abord, on a pensé que ces deux médecines étaient complémentaires, que la médecine religieuse s'intéressait aux causes spirituelles et s'occupait d'éliminer la malédiction ou la colère divine qui pesait sur le patient, quand la médecine physique guérissait simplement les symptômes du corps. Et il se trouve qu'en pensant cela, on passait complètement à côté de quelque chose. Comme je l'ai dit avant, l'existence au sein de la même société de ces deux médecines qui sont si opposées dans leur approche du soin peut paraître très, très bizarre. Et c'est là que j'attire votre attention sur le fait que beaucoup de cultures du monde emploient parallèlement la médecine religieuse et la médecine physique. Dans les pays de l'Est de l'Europe, par exemple, il est assez courant dans certains endroits de couper la tête d'un poulet et de l'enterrer pour soigner une piqûre d'insectes. Dans certaines populations d'Océanie, on associe les maladies à des odeurs que les mauvais esprits nous jettent, alors on les soigne en s'appliquant sur le corps des mixtures qui sont bonnes, tout en exécutant des gestes et des paroles rituelles pour éloigner le mal. En Amérique latine, ou même encore en France, l'Église catholique dispense des exorcismes dans des cas assez rares. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, il vous suffit d'écrire le mot « médecine » dans la barre de recherche de YouTube pour voir apparaître des propositions comme « médecine prophétique », « médecine spirituelle » ou « médecine énergétique » parmi les choses les plus recherchées, autant dire des médecines qui relèvent du domaine de la croyance. Et rien n'empêche, justement, que les gens qui les utilisent ne finissent par prendre un cachet de Doliprane ou aller voir un médecin dans leur vie. Ce sont donc bien deux approches médicinales différentes qui se concurrencent dans notre monde, et les Babyloniens faisaient de même.
Vous écoutez bien les Antiquités Orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Continuant votre déambulation dans ce qui fut un jour la plus grande ville du Proche-Orient, vous voyez un homme, gesticulant au beau milieu d'une place, les yeux exorbités, tant par le discours incohérent qui sort de sa bouche que par la danse, échevelée et ne répondant à aucune chorégraphie, qui anime son corps. Une scène comme celle-ci serait dans notre monde un tableau assez déstabilisant, mais il vous suffit d'observer les regards fixes des passants pour comprendre que dans le monde des Babyloniens, la situation est plus que tendue. Les paroles que débite cet inconnu ruissellent progressivement sur les visages des autres, les décomposant petit à petit. Les dieux sont en colère, paraît-il. Il dit qu'ils enverront bientôt leurs démons envahir le pays, ravager les terres, priver les femmes de leur fertilité et les hommes de leur capacité à combattre. Telles étaient les angoisses des Babyloniens qui se trouvaient là cristallisées dans une seule et même prédiction, proférée par un homme que les dieux ont choisi pour diffuser leur message. L'épisode auquel vous venez d'assister n'est autre que ce que l'on appelle de la divination. La divination, c'est accéder à la connaissance divine et aux décisions des dieux. On peut le faire de plusieurs façons. La scène que je vous ai décrite rentre dans le cadre de la divination dite inspirée, un cas assez rare dans nos sources où le discours des dieux passe par un intermédiaire choisi par eux, qui peut être à peu près n'importe qui, et qui relaie simplement leur message. Mais le type de divination qu'on voit le plus, c'est la divination dite déductive, qui consiste à observer dans le monde des signes perçus comme divins, et d'interpréter ces signes par diverses techniques pour en comprendre le sens, le plus souvent par le biais d'un spécialiste et on verra dans un instant à quoi elles ressemblent. Pour que ce soit plus clair, je vous reprends le présage du cochon que je vous ai donné tout à l'heure. Si l'exorciste voit un cochon noir, le patient va mourir. S'il en voit un blanc, alors le patient vivra. S'il en voit un rouge, le patient mourra dans 3 mois. S'il voit un cochon tacheté, il mourra d'un œdème. Le signe, c'est le cochon et sa couleur. Le sens, c'est, comme le texte le dit, soit la mort dans 3 mois, soit la mort d'un œdème ou encore la guérison. La divination est décrite dans certains textes mythologiques comme le cadeau des dieux aux hommes, et c'est la seule science que l'on a traitée jusqu'ici qui se donne une origine et qui plus est une origine divine. Logique, puisque le cœur même de la discipline est de communiquer avec les dieux, alors qui mieux que les dieux pour apprendre aux hommes comment faire ? Le plus souvent, c'est Ea, le dieu de la sagesse, qui est désigné comme l'inventeur de la divination, et pourtant ce n'est généralement pas vers lui que l'on se tourne pour communiquer avec les dieux. Vous vous retrouvez d'un coup dans une pièce. Vous voyez deux hommes assis l'un en face de l'autre, se regardant de part et d'autre d'une table, mais ils ne vous voient pas. Vous êtes, comme qui dirait, un fantôme. Le premier n'est autre qu'un devin, quand le deuxième a l'air de se situer assez haut dans l'échelle sociale. Visiblement, l'homme riche cherche à savoir quelque chose. Lorsque le devin commence à parler, vous l'entendez prononcer deux noms, Shamash et Haddad. Vous comprenez, grâce au regard du devin tourné vers le plafond de la pièce, que ce sont des dieux, l'un étant le dieu du soleil et l'autre le dieu de l'orage. Mais que viennent faire ces divinités dans la divination? La question est légitime. En réalité, c'est plutôt logique pour le premier. Shamash, le dieu du soleil, est considéré comme celui qui voit tout, de par sa position dans le ciel. C'est cette caractéristique qui fait qu'il est aussi le dieu de la justice, et donc qu'il rend des décisions, précisément ce que peuvent attendre les Babyloniens de la pratique de la divination. Il dirige aussi l'assemblée divine, ce qui lui permet d'être la passerelle entre les hommes et les autres dieux. Pour ce qui est d'Adad, le dieu de l'orage, il faut chercher un peu plus loin. Il est possible, je dis bien possible, que l'on s'adresse à lui pour deux raisons. La première est qu'il est une divinité habitant le ciel, tout comme Shamash, et la deuxième est qu'il est aussi connu comme le maître des vents, vents qui sont considérés par les Babyloniens comme les messagers des dieux. Une troisième personne apparaît dans l'entrée de la pièce, tenant dans sa main ensanglantée une sorte de pâté difforme, d'un pourpre luisant à la texture gluante, un foie. Il l'apporte au devin avant de s'éclipser par là d'où il est venu. Le spécialiste prononce alors quelques phrases, les yeux clos, avant d'observer l'organe sous toutes ses coutures. Ses yeux affichèrent d'abord un regard perplexe. Il retourna le foie et ce même regard se mua en cette hésitation savante qui, chez les spécialistes, finit toujours par s'éclaircir du regard assuré de celui qui vient de résoudre l'énigme qu'on lui a posée. Après un long silence, le devin reposa le foie sur la table, s'essuya les mains dans un linge et prononça quelques mots à l'homme devant lui, dont les mains n'avaient pas arrêté de trembloter depuis son arrivée. Dès qu'elles entendirent les paroles du devin, ces mêmes mains s'agitèrent frénétiquement en ce qui ressemblait à d'innombrables gestes de courbette et de gratitude, puis, d'un coup, l'homme quitta la pièce. Ce que vous venez de voir à l'instant est un exemple tout à fait commun de divination déductive. Ici, le devin est consulté par un particulier pour une interrogation quelconque, et son rôle est de déduire la réponse des dieux à la question qui lui est posée, à travers le plus souvent un foie de mouton, et plus précisément toutes les éventuelles anomalies de son anatomie. Nous avons par ailleurs retrouvé une maquette de foie de mouton en argile, quadrillée et marquée de toutes les zones que les devins devaient analyser pour comprendre le discours des dieux. Voici donc à quoi ça pouvait ressembler. Si, dans le foie du mouton sacrifié, on a trouvé une partie anatomique que les Babyloniens appellent le socle, en forme d'aiguillon de scorpion, bonne chance, l'épouse du consultant incendiera sa maison en mettant le feu à son lit. Sympa. Mais l'analyse d'un foie de mouton n'est pas la seule manière qu'ont trouvé les Babyloniens de déchiffrer le message des dieux. Vous serez peut-être étonné d'entendre qu'on peut le faire de bien des manières. On analyse les formes de l'huile versée sur de l'eau, par exemple. On peut faire la même chose à partir des fumées que dégage l'encens ou de la farine dispersée sur une surface plane. On étudie aussi le mouvement des oiseaux dans un périmètre donné. On regarde la couleur et les formes des taches sur une volaille qui vient d'être plumée et abattue. Il existe même un rituel particulier qui permet de faire apparaître la divinité en rêve au patient pour qu'elle s'exprime à lui. Freud n'est de loin pas le premier à avoir développé une analyse du rêve. En babylonien, le devin se dit Baru, que l'on peut traduire par examinateur ou inspecteur, et le mot dit parfaitement comment était conçue la profession, voire même la discipline en elle-même, à Babylone. C'était une véritable science de l'observation qui requérait une analyse fine, issue d'un savoir et d'un apprentissage particulier. Ce n'est pas pour rien que l'art de la divination est parfois appelé le secret des dieux, et il est évident qu'au-delà du statut particulier que la profession donnait aux devins, la divination était un art qui devait rester entre les mains de quelques élus, probablement ceux des plus hautes classes sociales. Car oui, dans à peu près toutes les sources dont nous disposons pour étudier les devins babyloniens, il nous apparaît que ce sont des gens avec un statut social élevé et bien installé dans la société. De plus, c'était aussi une profession familiale, transmise le plus souvent de père en fils, l'histoire ne nous ayant laissé que des noms d'hommes pour le métier. Comme nos chercheurs sont regroupés au sein d'équipes formant un laboratoire, nous savons qu'ils pouvaient aussi vivre et travailler au sein d'une équipe dirigée par un wakloum, un chef. Mais dans la majorité des cas, la profession s'exerçait seule, et nous avons quelques pistes pour envisager les perspectives de carrière d'un devin. Le tout premier échelon consistait à vendre ses services à la porte du palais où on pouvait le trouver. Son emplacement implique déjà une clientèle plutôt aisée, même si nous ne connaissons pas exactement le montant de sa rémunération. Un devin plus expérimenté accompagnait les armées dans les campagnes militaires, pour faire valider par les dieux les décisions de bataille. Toujours consulter l'avis des dieux avant de faire quoi que ce soit, croyez-moi. La prochaine étape est l'assignation à une province. Pour ce faire, on faisait une enquête oraculaire sur le devin. En gros, ça veut juste dire qu'on demande aux dieux s'il était considéré comme apte à exercer pour le pouvoir. Enfin, le devin pouvait officier à la cour, le stade le plus haut de la profession, et avait occasionnellement des fonctions administratives et diplomatiques. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'intéressant concernant le devin. Même si nous ne savons pas vraiment si ces services étaient accessibles à toutes les franges de la société, le devin se retrouve dans beaucoup de domaines. Politique, diplomatique, administratif, militaire et bien sûr religieux. Domaine qui, a priori, dépasse sa fonction initiale. Mais lorsque l'on se penche un peu plus sur la profession, on se rend compte qu'elle plonge le devin dans l'intimité la plus profonde de celui ou celle qui loue ses services. En effet, on le consulte pour la guérison d'une maladie, pour découvrir un adultère, ou tout simplement pour interpréter un événement insolite de la vie quotidienne dont on pensait à l'époque qu'il était un signe des dieux. Mais imaginez maintenant que ce ne soit pas une personne comme vous et moi en face de lui, mais le roi en personne. Que ce soit pour des affaires personnelles ou des questions touchant la sécurité du royaume, le devin pouvait être immédiatement immiscé dans le secret d'homme d'État. Nous avons aussi la preuve que ces spécialistes ont parfois servi comme envoyés diplomatiques dans des cours étrangères, ce qui ne signifie pas du tout qu'ils étaient juste là pour discuter, serrer des mains et présenter des cadeaux. Non, un envoyé diplomatique au Proche-Orient ancien est avant tout un pion qui, avancé par-delà les remparts des capitales et des palais, observe, écoute et renseigne. Les devins ont donc pu servir de véritables espions dans les cours princières du Proche-Orient, alors il n'est pas étonnant de les voir à des postes haut placés dans la société, car vous le savez aussi bien que moi, le savoir, c'est aussi le pouvoir. Que ce soit en pratiquant la démonstration dans des problèmes mathématiques et géométriques, en acquérant le savoir par l'expérience dans la médecine physique, ou en développant toute une théorie de l'observation du monde à travers la divination, les sciences des Babyloniens ont des caractéristiques qui correspondent en partie à la définition que nous avons d'une science aujourd'hui. Nous avons vu que la société babylonienne, pétrie de religion, disposait à travers ces sciences d'une rationalité toute particulière, propre à elle-même, à la fois ressemblante mais aussi différente de notre rationalité occidentale. Mais en plus de leur utilité première, les disciplines que nous avons explorées sont toutes empreintes d'une symbolique particulière pour les Babyloniens, un pouvoir. Les mathématiques et leurs problèmes infiniment compliqués vont au-delà de leur application pratique. Elles servent à créer une démarcation claire sur le plan intellectuel entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais aussi par extension une démarcation sociale entre ceux qui peuvent savoir et ceux qui ne peuvent pas. La médecine, elle aussi, fait plus que soigner. Quelle que soit son approche, physique ou religieuse, elle répond à l'angoisse de celui dont le corps est altéré, déformé, cassé, troué, brisé ou même empoisonné. Elle répond qu'il existe un parce que, au pourquoi de la maladie, avec en prime une solution qui, sous la forme d'un remède ou d'un rituel, est censée faire revenir le corps à son état d'avant, l'état normal, si cher à celui qui ne veut pas mourir. Enfin, la divination procure aux Babyloniens ce que la boule de cristal et ses équivalents ont pu offrir et offrent encore dans tant de sociétés humaines, y compris la nôtre. Un regard clairvoyant tourné vers l'horizon du temps, un coup d'avance sur le grand brouillard noir et inconnu que forme le futur devant chaque être humain. C'est devant ces observations qu'il devient légitime de nous questionner sur la symbolique particulière qu'offrent nos propres disciplines, nos propres sciences. Car il serait naïf de penser que nous faisons de la physique seulement pour étudier la nature, de l'écologie seulement pour la protéger, ou encore de l'histoire seulement pour comprendre le passé, et que les Babyloniens sont les seuls à avoir une peur existentielle. Au-delà de leur utilité première, chacune de nos sciences modernes nous offre, à nous aussi, un pouvoir, que ce soit sur nous-mêmes, le monde ou l'avenir, car rappelez-vous, le savoir, c'est justement le pouvoir. C'est ainsi que s'achève ce 4e épisode des Antiquités orientales sur la civilisation babylonienne. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à l'équipe de Radio Campus Paris qui produit cette émission. N'hésitez pas aussi à suivre cette aventure sur Instagram, @les-antiquités-orientales, et sur Facebook en tapant les Antiquités orientales dans la barre de recherche. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et comme on dit en babylonien, Shalmou.